Histoire de la Réformation du XVIe siècle, livre 3, chapitre 3. Léon X, besoin du pape, Albert, son caractère, ferme des indulgences, les franciscains et les dominicains. Le pape qui occupait alors le trône pontifical n'était pas un Borgia, c'était Léon X de l'illustre famille des Médicis. Il était habile, sincère, plein de bonté et de douceur. Son commerce était affable, sa libéralité sans borne, ses mœurs personnelles supérieures à celles de sa cour. Le cardinal Pallavicini reconnaît cependant qu'elles ne furent pas à l'abri de tout reproche. À ce caractère aimable, il joignait plusieurs des qualités d'un grand prince. Il se montrait l'ami des sciences et des arts. C'est en sa présence que furent représentées les premières comédies italiennes. Il en est peu de celles de son temps qu'il n'ait vu jouer. Il était passionné pour la musique. Chaque jour, son palais retentissait du son des instruments et on l'entendait souvent lui-même fredonner les airs qu'on avait exécutés devant lui. Il aimait la magnificence et il n'épargnait rien quand il s'agissait de fêtes, de jeux, de théâtre, de présents ou de récompenses. Aucune cour ne surpassait en éclat et en plaisir celle du souverain pontife. Aussi, quand on apprit que Julien Médicis pensait à fixer sa résidence à Rome avec sa jeune épouse, « Loué soit Dieu !» s'écria le cardinal Bibliena, le plus influent des conseillers de Léon X, « car il ne nous manquait ici rien qu'une cour de dames. » Une cour de dames était le complément nécessaire de la cour du pape, mais le sentiment religieux était une chose complètement inconnue à Léon. Il avait tant d'agréments dans ses manières qu'il eût été un homme accompli s'il avait eu quelques connaissances des choses de la religion et un peu plus d'inclination à la piété, de laquelle il ne se mit guère en peine, dit Sarpi. Léon avait besoin de beaucoup d'argent. Il devait pourvoir à ses vastes dépenses, suffire à toutes ses libéralités, remplir la bourse d'or qu'il jetait chaque jour au peuple, entretenir les spectacles licencieux du Vatican, satisfaire aux nombreuses demandes de ses parents et de ses courtisans adonnés aux voluptés, doter sa sœur qui avait épousé le prince Cibaud, fils naturel du pape Innocent VIII, et suffire aux dépenses occasionnées par son goût pour les lettres, les arts et les plaisirs. Son cousin, le cardinal Pussy, aussi habile dans l'art d'amasser que Léon dans celui de prodiguer, lui conseilla de recourir à la ressource des indulgences. Le pape publia donc une bulle annonçant une indulgence générale, dont le produit serait destiné, disait-il, à la construction de l'église de Saint-Pierre, ce monument de la magnificence sacerdotale. Dans une lettre donnée à Rome, sous l'anneau du pêcheur, en novembre 1517, Léon demande à son commissaire des indulgences 147 ducats d'or pour payer un manuscrit du 33e livre de Tite-Live. De tous les usages qu'il fit de l'argent des Germains, ce fut sans doute là le meilleur. Mais encore était-il étrange de délivrer les âmes du purgatoire pour acheter le manuscrit de l'histoire des guerres du peuple romain. Alors se trouvait en Allemagne un jeune prince qui était à beaucoup d'égards une image vivante de Léon X. C'était Albert, frère cadet de l'électeur Joachim de Brandebourg. Ce jeune homme, âgé de 24 ans, avait été fait archevêque et électeur de Mayence et de Magdebourg. Deux ans plus tard, il fut nommé cardinal. Albert n'avait ni les vertus ni les vices qu'on rencontre souvent chez les hauts dignitaires de l'Église. Jeune, léger, mondain, mais non sans quelques sentiments généreux, il voyait fort bien plusieurs des abus de la catholicité et se souciait peu des moines fanatiques qui l'entouraient. Son équité le portait à reconnaître, au moins en partie, la justice de ce que demandaient les amis de l'Évangile. Dans le secret de son cœur, il n'était pas très opposé à Luther. Capiton, l'un des réformateurs les plus distingués, fut longtemps son chapelain, son conseiller et son confident intime. Albert assistait régulièrement à ses prédications. « Il ne méprisait pas l'Évangile, dit Capiton. Il l'estimait beaucoup, au contraire, et pendant longtemps, il empêcha les moines d'attaquer Luther. » Mais il eût voulu que celui-ci ne le compromît pas, et que tout en signalant les erreurs de doctrine et les vices des membres inférieurs du clergé, il se garda bien de mettre au grand jour les fautes des évêques et des princes. Il craignait, par-dessus tout, de voir son nom mêlé à cette affaire. Voyez, disait plus tard à Luther le confiant Capiton, porté à se faire illusion, comme on l'est souvent dans des situations semblables à la sienne. Voyez l'exemple de Jésus-Christ et des apôtres. Ils ont repris les pharisiens, l'inceste de Corinthe, mais ils n'ont jamais nommé les coupables. Vous ne savez pas ce qui se passe dans le cœur des évêques. Il s'y trouve plus de bien que vous ne le pensez peut-être. Mais l'esprit léger et profane d'Albert devait encore plus que les susceptibilités et les craintes de son amour-propre l'éloigner de la réformation. Affable, spirituel, bien fait, somptueux, dissipateur, se plaisant dans les délices de la table, dans les riches équipages, dans la magnificence des édifices, dans les plaisirs licencieux et dans la société des gens de lettres, ce jeune archevêque électeur était en Allemagne ce que Léon X était à Rome. Sa cour était l'une des plus magnifiques de l'Empire. Il était prêt à sacrifier au plaisir et aux grandeurs tous les pressentiments de vérité qui pouvaient s'être glissés dans son cœur. Néanmoins, on vit en lui, jusqu'à la fin, une certaine résistance et des convictions meilleures. Plus d'une fois, il donna des preuves de sa modération et de son équité. Albert avait besoin d'argent, comme Léon. De riches négociants d'Augsbourg, les Fugères, lui avaient fait des avances. Il fallait payer ses dettes. En outre, bien qu'il eût su accumuler 2 archevêchés et 1 évêché, il n'avait pas de quoi payer à Rome son pallium. Cet ornement de laine blanche, semé de croix noires et béni par le pape qu'il envoyait aux archevêques comme marque de leur dignité, leur coûtait 26 000, quelques-uns disent 30 000 florins. Albert eut tout naturellement l'idée de recourir pour obtenir de l'argent au même moyen que le pape. Il lui demanda la ferme générale des indulgences ou, comme l'on disait à Rome, des péchés des germains. Quelquefois, les papes les exploitaient eux-mêmes. D'autres fois, ils les affermaient, comme quelques gouvernements afferment encore aujourd'hui les maisons de jeu. Albert offrit à Léon de partager avec lui les profits de l'affaire. Léon, en acceptant le bail, exigea qu'il payât immédiatement le prix du pallium. Albert, qui comptait précisément sur les indulgences pour l'acquitter, s'adressa de nouveau aux Fugères, qui, jugeant l'affaire bonne, firent à certaines conditions l'avance demandée et furent nommés caissiers de l'entreprise. C'étaient les banquiers des princes de cette époque. Plus tard, on les fit compte pour les services qu'ils avaient rendus. Le pape et l'archevêque s'étant ainsi partagés à l'avance les dépouilles des bonnes âmes de l'Allemagne, il s'agissait de trouver ceux qui seraient chargés de réaliser l'affaire. On l'offrit d'abord à l'ordre des franciscains et leur gardien fut adjoint à Albert. Mais ces moines ne s'en souciaient pas parce qu'elle était déjà en mauvaise réputation auprès des honnêtes gens. Les Augustins, parmi lesquels se trouvait plus de lumière que dans les autres ordres religieux, s'en fussent moins souciés encore. Cependant, les franciscains craignaient de déplaire au pape, qui venait d'envoyer à leur général de Forli le chapeau de cardinal, chapeau qui avait coûté 30 000 florins à ce pauvre ordre mendiant. Le gardien jugea plus prudent de ne pas refuser ouvertement, mais il suscita à Albert toutes sortes de difficultés. Jamais ils ne pouvaient s'entendre, aussi l'électeur accepta-t-il avec empressement la proposition qui lui fut faite de se charger seul de l'affaire. Les dominicains, de leur côté, convoitaient une part dans l'exploitation générale qui allait commencer. Tetzel, déjà fameux dans le métier, accourut à Mayence pour offrir ses services à l'électeur. On se rappelait le talent dont il avait fait preuve en publiant les indulgences pour les chevaliers de l'ordre teutonique de la Prusse et de la Livonie. On accepta donc ses propositions et tout ce trafic passa ainsi dans les mains de son ordre. Livre 3, chapitre 4. Tetzel s'approche, Luther au confessionnal, colère de Tetzel, Luther sans plan, une jalousie d'ordre, discours de Luther, songe de l'électeur. Luther entendit autant que nous le savons parler pour la première fois de Tetzel à Grima en 1516, au moment où il commençait sa visite des églises. On vint rapporter à Stupitz, qui se trouvait encore avec Luther, qu'il y avait à Würzen un marchand d'indulgence nommé Tetzel qui faisait grand bruit. On cita même quelques-unes de ses paroles extravagantes. Luther s'en indigna et s'écria « Si Dieu le permet, je ferai un trou à son tambour ». Tetzel revenait de Berlin, où il avait reçu l'accueil le plus amical de l'électeur Joachim, frère du fermier général, lorsqu'il vint s'établir à Jüterbock. Staupitz, profitant de la confiance qu'avait en lui l'électeur Frédéric, lui avait souvent représenté les abus des indulgences et les scandales des quêteurs. Les princes de Saxe, indignés contre ce commerce honteux, avaient interdit aux marchands l'entrée de leur province. Il devait donc demeurer sur les terres de son patron, l'archevêque de Magdebourg, mais il approchait de la Saxe autant qu'il le pouvait. Jüterbock n'était qu'à 4 000 de Wittenberg. Ce grand batteur de bourse, dit Luther, se mit à battre bravement le pays, en sorte que l'argent commença à sauter, à tomber et à sonner dans ses caisses. Le peuple accourut en foule de Wittenberg au marché d'indulgence de Jüterbock. Luther était encore, à cette époque, rempli de respect pour l'Église et pour le pape. « J'étais alors, dit-il, un moine, un papiste des plus insensés, tellement enivré et même tellement noyé dans les doctrines de Rome, que j'aurais volontiers aidé, si je l'avais pu, à tuer quiconque eût eu l'audace de refuser le moins du monde obéissance au pape. J'étais un véritable sol, comme il en est encore plusieurs. Mais en même temps, son cœur était prêt à s'embraser pour tout ce qu'il reconnaissait être la vérité et contre tout ce qu'il croyait être l'erreur. J'étais un jeune docteur sorti récemment de la forge, ardent et joyeux dans la parole du Seigneur. » Luther était un jour assis dans le confessionnal à Wittenberg. Plusieurs bourgeois de la ville se présentent successivement. Ils se confessent coupables de grands désordres. Adultère, libertinage, usure, bien mal acquis, voilà ce dont viennent entretenir le ministre de la parole, ces âmes dont un jour il devra rendre compte. Il reprend, il corrige, il éclaire. Mais quel est son étonnement quand ces gens lui répondent qu'ils ne veulent point abandonner leur péché? Tout épouvanté, le pieux moine leur déclare que puisqu'ils ne veulent point promettre de se convertir, il ne peut leur donner l'absolution. Les malheureux en appellent alors à leurs lettres d'indulgence. Ils les exhibent et ils en revendiquent la vertu. Mais Luther répond qu'il s'embarrasse peu du papier qu'on lui montre et ajoute « Si vous ne vous convertissez, vous périrez tous. » On se récrie, on réclame. Le docteur est inébranlable. Il faut qu'on cesse de mal faire, qu'on apprenne à bien faire, autrement point d'absolution. « Gardez-vous, ajoute-t-il, de prêter l'oreille aux clameurs des vendeurs d'indulgence. » Vous avez de meilleures choses à faire que d'acheter ces licences qu'ils vous vendent au prix le plus vil. » Très alarmés, ces habitants de Wittenberg se hâtent de retourner vers Tetzel. Ils lui racontent qu'un moine augustin ne fait aucun cas de ses lettres. Tetzel, à cette nouvelle, rugit de colère. Il crie en chair, il insulte, il maudit, et pour frapper davantage le peuple de terreur, il fait allumer à plusieurs reprises un feu sur la grande place et déclare qu'il a reçu du pape l'ordre de brûler les hérétiques qui oseraient s'élever contre les très saintes indulgences. Tel est le fait qui fut, non la cause, mais l'occasion première de la Réformation. Un pasteur, voyant les brebis de son troupeau dans une voie où elles doivent se perdre, cherche à les en tirer. Il ne pense point encore à réformer l'Église et le monde. Il a vu Rome et sa corruption, mais il ne s'élève point contre Rome. Il pressent quelques-uns des abus sous lesquels la chrétienté gémit, mais il ne pense pas à corriger ces abus. Il ne veut pas se faire réformateur. Il n'a pas plus un plan pour la réformation de l'Église qu'il n'en a eu un pour la sienne propre. Dieu veut la réforme et Luther pour la réforme. Ce même remède, qui s'est montré si efficace pour le guérir de ses propres misères, la main de Dieu l'appliquera par lui aux misères de la chrétienté. Il demeure tranquille dans le cercle qui lui est assigné. Il marche simplement où son maître l'appelle. Il remplit à Wittenberg ses devoirs de professeur, de prédicateur, de pasteur. Il est assis dans le temple où les membres de son église viennent lui ouvrir leur cœur. C'est là, c'est sur ce terrain que le mal vient l'attaquer et que l'erreur vient le chercher elle-même. On veut l'empêcher de s'acquitter de sa charge. Sa conscience liée à la parole de Dieu se soulève. N'est-ce pas Dieu qui l'appelle ? Résister est un devoir, c'est donc aussi un droit. Il doit parler. Ainsi furent ordonnés les événements par ce Dieu qui voulait restaurer la chrétienté par le fils d'un maître de forge et faire passer par ses fourneaux la doctrine impure de l'Église afin de la purifier, dit Mathésius. Après cet exposé, il n'est pas nécessaire sans doute de réfuter une imputation mensongère inventée par quelques-uns des ennemis de Luther, mais seulement après sa mort. Une jalousie d'ordre, a-t-on dit, la douleur de voir un commerce honteux et réprouvé confié aux dominicains plutôt qu'aux augustins qui en avaient joui jusqu'à cette heure, portèrent le docteur de Wittenberg à attaquer Tetzel et ses doctrines. Le fait bien établi que ce trafic avait d'abord été offert aux franciscains, qui n'en avaient pas voulu, suffit pour réfuter cette fable répétée par des écrivains qui se sont copiés les uns les autres. Le cardinal Pallavicini lui-même affirme que les augustins n'avaient jamais rempli cette charge. Au reste, nous avons vu le travail de l'âme de Luther. Sa conduite n'a pas besoin d'une autre explication. Il fallait qu'il confessât hautement la doctrine à laquelle il devait son bonheur. Dans le christianisme, quand on a trouvé un bien pour soi-même, on veut aussi le communiquer aux autres. De nos jours, on doit abandonner ces explications puériles et indignes de la grande révolution du XVIe siècle. Il fallait un levier puissant pour soulever un monde. La réformation n'était pas dans Luther seulement. Son siècle la devait enfanter. Luther, que l'obéissance à la vérité de Dieu et la charité envers les hommes appelaient également, monta en chair. Il prémunit ses auditeurs, mais avec douceur, ainsi qu'il le dit lui-même. Son prince avait obtenu du pape pour l'église du château de Wittenberg des indulgences particulières. Quelques-uns des coups dont il allait frapper les indulgences de l'inquisiteur pourraient bien tomber sur celles de l'électeur. N'importe, il s'exposera à sa disgrâce. S'il cherchait à plaire aux hommes, il ne serait pas serviteur de Christ. Nul ne peut prouver par l'Écriture que la justice de Dieu demande une peine ou une satisfaction aux pécheurs, dit le fidèle ministre de la Parole au peuple de Wittenberg. Le seul devoir qu'elle lui impose, c'est une vraie repentance, une sincère conversion, la résolution de porter la croix de Jésus-Christ et de s'appliquer aux bonnes œuvres. C'est une grande erreur que de prétendre satisfaire soi-même pour ses péchés à la justice de Dieu, car Dieu les pardonne toujours gratuitement, par une grâce inestimable. L'Église chrétienne, il est vrai, demande quelque chose au pécheur, et par conséquent, elle peut le lui remettre. Mais c'est là tout, et encore ces indulgences de l'Église ne sont tolérées qu'à cause des chrétiens paresseux et imparfaits qui ne veulent pas s'exercer avec zèle aux bonnes œuvres, car elles n'excitent personne à la sanctification, mais elles laissent chacun dans l'imperfection. Puis, abordant le prétexte sous lequel les indulgences sont publiées, « On ferait beaucoup mieux, continue-t-il, de contribuer pour l'amour de Dieu à la construction de l'église de Saint-Pierre que d'acheter dans ce but des indulgences. Mais dites-vous, n'en achèterons-nous donc jamais? Je l'ai déjà dit et je le répète, mon conseil est que personne n'en achète. Laissez-les aux chrétiens qui dorment, mais vous, marchez à part et pour vous-même. Il faut détourner les fidèles des indulgences et les exciter aux œuvres qu'ils négligent. » Enfin, jetant un coup d'œil sur ses adversaires, Luther termine en disant « Et si quelques-uns crient que je suis un hérétique, car la vérité que je prêche est très nuisible à leur coffre-fort, je m'inquiète peu de leur criaillerie. Ce sont des cerveaux sombres et malades, des hommes qui n'ont jamais senti la Bible, jamais lu la doctrine chrétienne, jamais compris leur propre docteur et qui pourrissent enveloppés dans les lambeaux troués de leurs vaines opinions. Que Dieu leur donne à eux et à nous un sens droit. Amen. » Après ces mots, le docteur descend de chair, laissant ses auditeurs tout émus de son hardi langage. Ce sermon fut imprimé. Il fit une profonde impression sur tous ceux qui le lurent. Tetzel y répondit, et Luther répliqua, mais ces discussions n'eurent lieu que plus tard, en 1518. La fête de tous les saints approchait. Des chroniques du temps racontent ici une circonstance qui, bien que peu importante pour l'histoire de cette époque, peut servir cependant à la caractériser. C'est un songe de l'électeur dont le fond est sans doute véritable, bien que quelques circonstances puissent avoir été ajoutées par ceux qui l'ont rapporté. Seckendorff en fait mention. La crainte de faire dire aux adversaires que la doctrine de Luther était fondée sur des songes a peut-être empêché divers historiens d'en parler, remarque ce respectable écrivain. L'électeur Frédéric de Saxe était à son château de Schweinitz, à 6 lieues de Wittenberg, disent les chroniques du temps. Le 31 octobre, vers le matin, se trouvant avec son frère le duc Jean, qui était alors co-régent et qui régna seul après sa mort, et avec son chancelier, l'électeur dit au duc, Il faut, mon frère, que je vous raconte un rêve que j'ai fait cette nuit et dont je voudrais bien savoir la signification. Il m'est si bien gravé dans l'esprit que je ne l'oublierai pas, dussé-je vivre 1000 ans, car je l'ai eu par 3 fois et toujours avec des circonstances nouvelles. Le duc Jean. Est-ce un bon ou un mauvais rêve? Les lecteurs. Je ne sais, Dieu le sait. Le duc Jean. Ne vous en inquiétez pas, mais veuillez me le raconter. Les lecteurs. M'étant mis au lit hier soir, fatigué et abattu, je m'endormis bientôt après ma prière et je reposai doucement environ 2 heures et demie. M'étant alors réveillé, j'eus jusqu'à minuit toutes sortes de pensées. Je réfléchissais comment je voulais fêter tous les saints, je priais pour les pauvres âmes dans le purgatoire et je demandais à Dieu de me conduire, moi, mes conseils et mon peuple, selon la vérité. Je m'endormis de nouveau et alors je rêvais que le Dieu Tout-Puissant m'envoyait un moine qui était le fils véritable de l'apôtre saint Paul. Tous les saints l'accompagnaient, d'après l'ordre de Dieu, afin de lui rendre témoignage auprès de moi et de déclarer qu'il ne venait point machiner quelque fraude, mais que tout ce qu'il faisait était selon la volonté de Dieu. Ils me demandèrent de vouloir bien permettre gracieusement qu'il écrivît quelque chose à la porte de l'église du château de Wittenberg, ce que j'accordai par l'organe du chancelier. Là-dessus, le moine s'y rendit et se mit à écrire. Il le fit en si grosses lettres que je pouvais de Schweinitz lire ce qu'il écrivait. La plume dont il se servait était si grande que l'extrémité atteignait jusqu'à Rome. Elle y perçait les oreilles d'un lion qui y était couché et faisait chanceler sur la tête du pape la triple couronne. Tous les cardinaux et les princes, accourant en toute hâte, s'efforçaient de la soutenir. Moi-même et vous, mon frère, nous voulions aider aussi. J'étendis le bras, mais en ce moment je me réveillai le bras en l'air, tout épouvanté et fort en colère contre ce moine qui ne savait pas mieux gouverner sa plume. Je me remis un peu. Ce n'était qu'un songe. J'étais encore à moitié endormi, et je fermai de nouveau les yeux. Le rêve recommença. Le lion, toujours inquiété par la plume, se mit à rugir de toutes ses forces, en sorte que toute la ville de Rome et tous les états du Saint-Empire accoururent, s'informant de ce que c'était. Le pape demanda qu'on s'opposât à ce moine, et s'adressa surtout à moi, parce que c'était dans mon pays qu'il se trouvait. Je me réveillai encore, je récitai Notre Père, je demandai à Dieu de préserver sa sainteté, et je me rendormis de nouveau. Alors je rêvais que tous les princes de l'Empire, et nous avec eux, accouraient à Rome et s'efforçaient les uns après les autres de rompre cette plume. Mais plus on faisait d'efforts, plus elle se roidissait. Elle craquait comme si elle eût été de fer. Nous nous lassâmes enfin. Je fis alors demander au moine, car j'étais tantôt à Rome et tantôt à Wittenberg, d'où il tenait cette plume et pourquoi elle était si forte. La plume, répondit-il, a appartenu à une vieille oie de Bohême, âgée de 100 ans. Note, Jean Hus, c'est ici une circonstance qu'on a peut-être rajoutée plus tard pour faire allusion à la parole de Jean Hus que nous avons citée. Je la tiens de l'un de mes anciens maîtres d'école. Quant à sa force, elle provient de ce qu'on ne peut pas lui ôter l'âme ou la moelle, et j'en suis moi-même tout étonné. Tout à coup, j'entendis un grand cri. De la longue plume du moine était sorti un grand nombre d'autres plumes. Je me réveillai une troisième fois, il faisait jour. Le duc Jean. Monsieur le chancelier, que vous ensemble, que n'avons-nous ici un Joseph ou un Daniel éclairé de Dieu? Le chancelier. Vos altesses connaissent le proverbe populaire que les songes des jeunes filles, des savants et des grands seigneurs ont ordinairement quelques significations cachées, mais on ne saura celle de ce songe-ci que dans quelque temps, lorsque les choses auxquelles il a rapport seront arrivées. C'est pourquoi confiez-en l'accomplissement à Dieu et remettez tout en sa main. Le duc Jean. Je pense comme vous, monsieur le chancelier. Il n'est pas à propos que nous nous creusions la tête pour découvrir ce que ceci peut signifier. Dieu saura tout diriger pour sa gloire. Les lecteurs. Que notre Dieu fidèle le fasse. Cependant, je n'oublierai jamais ce rêve. J'ai bien pensé à une interprétation, mais je la garde pour moi. Le temps montrera peut-être si j'ai bien deviné. » Ainsi se passa, selon le manuscrit de Weimar, la matinée du 31 octobre à Schweinitz. Voyons quel en fut le soir à Wittenberg. Nous revenons ici tout à fait sur le terrain de l'histoire.